Session de philosophie par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 2 juillet 96, première conférence.
Qu'est-ce qui est chargé de taper? Parce qu'il n'est pas là, là. Il y aura quelqu'un qui le fait. J'espère que vous avez bien dormi. C'est très important, ça, que vous n'avez pas rêvé à Feuerbach. C'était mieux, parce que ce matin, vous auriez demandé s'il fallait se lever. Le jeu est balancé. Mais c'est intéressant, vous voyez, de voir qu'à la suite de toutes les idéologies, et dans les idéologies même, le jeu, je suis, au fond, est télescopé. Si tu restes toujours comme ça, si on supprime Dieu, on supprime l'homme. Et on attaque d'abord Dieu avant d'attaquer l'homme. Et là, on attaque l'homme en supprimant son âme et en enlevant ce qu'il est profondément. Vous voyez, c'est ça qu'il faut regarder. On doit faire ça rapidement, alors c'est pas très drôle, mais c'est quand même nécessaire. Le philosophe dans un monde actuel où, de fait, et il faut le voir avec netteté, où, de fait, il y a une grande rupture vis-à-vis d'une culture et d'une philosophie. On pourrait dire qu'il y a une première montée philosophique avant la révélation. La révélation est quand même un phénomène mondial, cosmique. Avant la révélation, il y a une montée. Platon représente un sommet. Aristote représente un sommet. Platon représente un sommet. Il y a quelques sommets. Il n'y en a pas qu'un seul. On peut dire que le grand sommet, c'est Aristote. Heidegger reconnaît que le sommet de la philosophie grecque, c'est quand même Aristote dans sa découverte de l'entelecheia. L'entelecheia, pour ceux qui ne comprennent pas le grec, c'est l'être, ça a été traduit l'être en acte. En réalité, c'est un mot qu'Aristote a inventé. Les philosophes ne doivent pas inventer des mots, c'est pas bien, c'est pas leur rôle, ils sont pas des poètes. Les poètes inventent des mots, très bien, ça fait partie de leur métier. Et connaissance, oui, c'est très bien. Alors, pour le philosophe, connaissance à la manière de Claudel, ça ne dit rien du tout. Mais pour un poète, oui, c'est intéressant, parce qu'on ne voit pas très bien ce que ça veut dire, c'est intéressant. Et ça conduit, quelquefois. Alors quand on est uniquement dans la poésie, c'est très bien. C'est un contexte qui aide. Il faut toujours un contexte poétique, lyrique, romantique, ou classique. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une première montée, très nette, qui touche un sommet. Plusieurs sommets, puisqu'au fond, après Aristote, dans la ligne d'Aristote, il n'y a pas grand-chose. Il y a des commentateurs, mais il y a autre chose à côté d'Aristote. On ne peut pas nier que Plotin, c'est quand même un sommet. On voit les limites, mais c'est un sommet. Platon est un certain sommet. C'est très curieux, le christianisme va d'une certaine manière, vous comprenez bien ce que je veux dire, orienter l'humanité vers quelque chose de différent. Et ce sera la théologie. La théologie, le mot théologie, existe avant les théologiens chrétiens. Le mot theologia est inventé par Platon et par Aristote. le mot théologie est d'abord un mot philosophique. C'est pas d'abord un mot de doctrine sacrée. C'est un mot philosophique. Et ça, on doit le maintenir. On doit maintenir que la philosophie conduit à la théologie. C'est-à-dire à regarder Dieu. Et c'est pour ça que je vous disais que dans la philosophie aristotélicienne, il y a la grande montée, il y a le sommet, et quand, normalement, quand on est intelligent et qu'on a fait une grande montée, on peut s'asseoir et regarder. Il y a la contemplation. Et dans la contemplation, il y a le jugement de sagesse. Le christianisme apporte une nouvelle sève. Les pères de l'Église, les théologiens chrétiens. Et qui est une sève étonnante, on ne peut pas nier. Quand vous regardez ce patrimoine des pères de l'Église, quand vous regardez ce patrimoine des théologiens, c'est quand même grand. Il suffit de voir au point de vue art ce qu'a donné le Moyen-Âge, ce qu'a donné le roman. Des choses très belles. Ce qu'a donné les cathédrales. Turnus. Ça a une âme, Turnus. Et celui qui a fait ça, il a une âme. Ça, c'est sûr. Et puis, il y a un tournant très curieux qui a commencé chez les théologiens dès le XIVe siècle. Avec Occam, un religieux franciscain anglais, Londres, qui a identifié métaphysique et logique. Alors c'est la grande chute. Et d'Occam est née une nouvelle philosophie qui a été condamnée par l'Église. Pas l'oublier. Les nouvelles philosophies qui sont la naissance des idéologies. Et la naissance des idéologies, c'est de commencer par cette réflexion sur les idées. Et on peut dire que le point de départ, c'est Occam. Descartes naît en philosophe de cette nouvelle théologie. Vous voyez comme c'est curieux. Là, la théologie est née avant la philosophie. Et elle a porté une nouvelle philosophie qui a voulu se montrer avec Descartes. C'est toute la différence entre Occam et Descartes. Occam est théologien. Il est croyant. Descartes est croyant, mais il fait une philosophie autonome par rapport à la foi, par rapport à la révélation. À ce point de vue-là, il est révolutionnaire de la pensée. Cogito. Mais c'est un révolutionnaire qui pense. Alors, cogito, il veut se montrer comme original, alors qu'en réalité, il est disciple d'Occam. Pour Occam, le point de départ, ce n'est pas la foi, c'est intelligo. Et pour Descartes, c'est cogito. Qu'est-ce que c'est que l'âme chez Descartes? Et ce point de vue-là, des idéologies qui, au point de départ, sont des idéologies qui impliquent la découverte d'un Dieu, de l'idée de Dieu. Et c'est vrai, ces idéologues aiment Dieu et considèrent que Dieu existe. Ce sont des idéologies qui conduisent à l'idée d'infini, l'idée de... Et cette idéologie de droite, rien n'est plus à droite que Descartes. C'est un conservateur. Il s'enferme dans ses idées. Des idées de droite. La bonne bourgeoisie.
L'homme
pouvons-nous reprendre l'homme ? Et Camus dit, par le point de vue de la beauté, par le point de vue de l'art, les jeunes sont sensibles à l'art, ils ne sont plus du tout sensibles à la morale, ils ne sont plus du tout sensibles à la vertu, mais l'art. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces idéologies athées ont marqué ou détruit le patrimoine philosophique. Le patrimoine philosophique de sagesse est détruit. Et ça, c'est très grave. Au point de vue humain, c'est très grave. C'est un signal d'alarme qu'on peut traduire de diverses manières. Mais pour un chrétien qui est philosophe, pour nous. domaine particulier. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne pouvons pas être dans le sens des idéologies athées. C'est-à-dire emboîter le pas avec ce qui a été à l'origine de ces idéologies athées. Hegel, l'ontologisme, le primat des idées. On doit reprendre avant et retrouver un terrain vrai sur lequel on peut philosopher. Je crois que le seul terrain vrai sur lequel on peut édifier une philosophie qui aboutit à une sagesse, qui est une sagesse, c'est de redécouvrir le point de départ d'un réalisme dans la pensée. Et là, donnons la main à Aristote, qui lui était dans une situation analogue, je dis bien analogue, avec Platon. Toute la philosophie platonicienne commence par la réminiscence. Et donc, il faut commencer par les idées. Aristote a compris que commencer par les idées, c'était s'enfermer sur sa propre connaissance humaine, dont le fruit sont les idées, sont les concepts. Et s'enfermer dans sa propre connaissance humaine, c'est la négation de la sagesse. L'homme ne peut découvrir la sagesse que dans un dépassement de lui. C'est pour ça que le Saint-Père ne cesse d'affirmer que l'homme exige un dépassement. Et c'est vrai, l'homme exige un dépassement pour se découvrir dans ce qu'il a de plus lui-même. Et quel est ce premier dépassement? Ce premier dépassement au plan génétique, au plan de l'invention, c'est l'amour. Aimer, c'est se dépasser. Aimer, c'est aller plus loin que soi. Aimer, c'est rejoindre l'autre dans ce qu'il a de transcendant par rapport à moi. Mais l'amour ne peut pas structurer ce dépassement. C'est la passion qui l'emportera. Ce sera l'émotion. Il faut que l'intelligence poussé par le désir de vérité, pas poussé par l'amour de la vérité, que l'intelligence retrouve son réalisme. Et par le réalisme, découvre le dépassement. Posez-vous la question de cette manière. À quel moment l'intelligence humaine découvre le dépassement de l'homme? L'amour, je le découvre tout de suite. Vous avez tous une expérience d'aimer. Et dès que vous commencez à aimer, vous avez l'expérience d'un dépassement. Parce que l'amour est lui-même un dépassement. L'homme se dépasse en aimant, spirituellement. L'amour d'amitié me met en présence de ce dépassement. L'ami, c'est celui que j'aime avec un certain absolu. Et le dépassement, dépassement à l'égard du vin pour les Grecs. C'était un premier dépassement. J'aime le bon vin. Non pas pour le vin, mais pour moi. J'aime le bon vin. Ça, c'est très grec. C'est très européen. Ah non, pas toujours. Parce que faut dire la bière. Allez, alors c'est pas tout à fait la même chose. Le vin, la bière, l'alcool. Je sais pas s'il y a une gradation. Mais c'est un amour quand même. Très passionnel. C'est un amour. Il faut découvrir dans la connaissance le dépassement. Et c'est le jugement où je touche l'autre. Et le jugement où je touche l'autre qui existe, qui est. C'est le jugement d'existence. C'est pour ça, je crois, capital de comprendre ce que c'est que le jugement d'existence. C'est intéressant de voir que ceux qui sont formés au sein de la famille de Descartes, ce qui a été très très long, et aujourd'hui ça a éclaté, parce qu'en Sorbonne, on n'avait pas le droit de critiquer Descartes il y a 70 ans. On n'avait pas. C'était sacré. Descartes était pour la Sorbonne ce que Platon était pour Plotin. Vous pouvez critiquer tout le reste, mais pas Descartes. Et ça, il restait dans l'Église, dans la bonne bourgeoisie. Je me souviens, à Lyon, la bonne bourgeoisie, une fois, dans une discussion, je critiquais Descartes. Je crois que j'aurais fait ébranler les fondements de cette maison. Critiquer Descartes, c'était inimaginable de dire que l'athéisme du siècle précédent provenait de Descartes. C'est presque de la folie de dire ça, sans comprendre que cet ontologisme qui traduit le primat de l'idée, et que c'est l'idée qu'on regarde et non plus la réalité. C'était pas du tout Descartes qui avait fait ça. C'est Descartes qui nous a enfermés dans cette prison dorée. Et qu'on a beaucoup, beaucoup de peine d'en sortir. Quand on pense que la droite, au point de vue de la pensée, aujourd'hui, en Allemagne, représentée par Kant, voyez quelque chose d'analogue. Ce que Kant dit à l'Allemagne, ce que Descartes a été, n'est plus maintenant. C'est une grande victoire. N'est plus à la France. Aujourd'hui, on peut critiquer Descartes. C'est quand même un progrès. C'est une toute petite porte. Et on sort par là. Et donc, on n'a plus rien. Il faut tout recommencer. Il faut tout reprendre. Et on est devant un terrain qu'on doit reconquérir. Et c'est quand même quelque chose de très important de voir qu'on peut reprendre un point de départ philosophique qui touche la réalité. Je me souviens d'une petite expérience très simple. Avoir vu le professeur Marois, professeur à la faculté de médecine à Paris, qui était le seul savant invité par le pape au dernier concile. Je ne le connaissais pas, mais je l'ai vu après. Et on a assisté, parce qu'il y avait des amis communs, à une recherche commune sur ce que c'était que l'âme. Alors, après que j'avais entendu 3 heures et que lui m'avait entendu 2 heures, on s'est donné la main. Et il m'a dit, comment ça se fait-il que je vois qu'un dialogue est possible entre nous, alors que pendant tout le concile, J'ai essayé d'avoir un dialogue avec les théologiens. C'était impossible. Expliquez-moi ça. Alors, je ne sais pas, étonnant, parce que ces théologiens restent dans la perspective d'idéologie. Vous, en tant que médecin, vous êtes toujours en face d'un malade, d'un être vivant. Une réalité. Si vous êtes vraiment quelqu'un qui cherche la vérité, qui cherche à guérir quelqu'un, et je lui dis, tant que la philosophie ne reviendra pas à la réalité, il ne pourra pas y avoir de vrai dialogue entre le philosophe et le savant. Un savant honnête qui cherche ce qu'est la vérité et où trouver ce contact avec le réel. Donc on est obligé de revenir, premier problème pour nous, la découverte de l'âme. Vous comprenez que l'immortalité est un attribut non pas de l'homme mais de l'âme humaine. Je crois que là on peut tous être d'accord. Je ne peux pas dire, en voyant un homme fort, en pleine santé, 50 ans, dire « Ah, vous êtes immortel ». Oui, s'il entre à l'académie, vous êtes immortel. Autrement, non. Alors, ce qu'il fait peut être immortel, mais pas lui. C'est très gênant, ça. On est dépassé par son œuvre. C'est très humiliant. Oh, c'est ce qui se passe. L'homme est mortel, et dès qu'on a fait une statue de lui, par l'art, il devient immortel. Si on fait grande attention de garder la statue. C'est ce que Malraux a très bien dit, en disant que l'œuvre d'art est antidestin. Par l'art, on dépasse le temps. Par l'art, on demeure au-delà du temps, incorruptible, intemporel. Mais l'homme comme homme est mortel. Tu es poussière. Et souviens-toi que tu es poussière. Si on dit que tu es poussière, ça veut dire corruptible, mortel. Tandis que je peux dire, ah, dans cet homme, il y a une âme qui est immortelle. Selon la tradition religieuse, selon le patrimoine philosophique, c'est toujours l'âme qui est dite immortelle, et non pas l'homme. Oui, on peut dire grâce à... Bon, alors on prend des métaphores pour cacher la réalité. Parler d'immortel, vous avez fait une œuvre telle que vous resterez dans la mémoire des hommes. En réalité, vous n'êtes pas immortel. Et vous resterez dans la mémoire des hommes. C'est déjà quelque chose. Et c'est pour ça que les hommes aiment tellement de faire une œuvre, de réaliser une œuvre. Par là, ils dépassent le temps. Par là, ils inscrivent leur nom au-delà du temps, dans une œuvre. Consigne. Par là, ça demeure au-delà du temps. Et on sait très bien que ça demeure au-delà du temps et que ce n'est pas immortel. Parce que cette œuvre est réalisée dans une matière, n'importe laquelle, qui, elle, est corruptible. Parce que si c'est un livre, il peut y avoir un incendie. Et tout disparaît. Aujourd'hui, tout disparaîtrait s'il y avait un grand incendie international. Tout disparaîtrait. réalité, c'est métaphorique. Quand on dit que un académicien est immortel, c'est métaphorique. La preuve, c'est qu'il peut mourir très peu de temps après. Alors, le nom reste. Mais pas grand-chose. Donc, pour comprendre ce que c'est que l'immortalité, il faut connaître ce qu'est l'âme. Premier problème philosophique. Qu'est-ce que je connais de mon âme ? C'est quand même important. Mais si je vous laissais à tous 10 minutes de réflexion et d'écrire sur un petit papier, qu'est-ce que c'est que votre âme ? Vous savez bien, la question de Brigitte. Hein ? La question de Brigitte. Brigitte, écoutant les cours d'un grand professeur de biologie, qui était venu lui donner des cours grâce à son professeur, son instituteur. Et il avait dit, toutes les objections que vous avez, vous pouvez me les écrire. Petite fille de 10 ans, ayant assisté à ses cours, lui écrit, monsieur le professeur, merci des cours que vous me donnez, mais vous n'avez pas encore parlé de l'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme pour vous ? Et ce professeur de médecine, qui a tous les grades, point de vue scientifique, respecté, vénéré, voilà la petite fille qui a été au catéchisme, qui porte une tradition religieuse. Qu'est-ce que c'est que l'âme ? Bon, c'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce que c'est que l'âme ? Au point de vue chrétien, si je suis chrétien, je sais par ma foi que l'âme existe et qu'elle est créée par Dieu. Je sais que toutes les traditions religieuses parlent de l'âme. Et je me pose la question. Est-ce que ce que les traditions religieuses parlent de l'âme, ce que ma foi chrétienne me dit de l'âme, est-ce une réalité que je puis connaître par ma philosophie ? Dans le temps, les philosophes en parlaient. Aujourd'hui, les philosophes n'en parlent plus. Et on a cette attitude que j'ai vue faisant une conférence sur l'âme à Paris à des jeunes théologiens catholiques. Ils m'ont dit au bout d'une heure et demie de conférence, c'est très bien ce que vous dites sur l'âme, mais ce n'est plus sur le marché philosophique. Et une réflexion comme celle-là est capable de me mettre en colère. Alors j'ai dit, pour vous, la vérité, c'est le marché philosophique. Alors là, ils n'ont plus rien dit. Pour le philosophe, peu importe que les hommes ne s'intéressent plus à ça. Au contraire, s'ils ne s'intéressent plus à ça, ça prouve que les philosophes n'ont pas fait leur métier. Si les philosophes avaient fait leur métier de sage, ils auraient rappelé constamment à l'homme que ce qui est le plus précieux en lui, c'est l'âme. C'est par là qu'ils vivent. Et de fait, ils ont subi des influences de philosophes idéologues de gauche. Des idéologues qui ont nié l'existence de Dieu et se sont laissés influencer par ça. Un a priori affectif. Ils ont dit, puisque Dieu n'existe pas, l'âme n'existe pas, puisqu'elle est créée par Dieu. Il n'existe que des êtres humains. L'âme n'est plus sur le marché philosophique. Monsieur Lejeune qui me disait ça. Je n'ai pas discuté, ça ne valait pas la peine. Mais c'était intéressant comme réaction. Donc, je me pose la question avec vous. Qu'est-ce que le philosophe peut dire sur l'âme? Toute la question est là. Si le philosophe ne peut rien dire sur l'âme, le problème de l'immortalité n'est plus un problème philosophique. Puisque c'est par l'âme que l'homme est immortel. C'est l'âme qui est immortelle. Ça, selon toutes les traditions philosophiques, et cela, selon toutes les traditions religieuses. Donc, qu'est-ce que c'est que l'âme? Dans un monde comme aujourd'hui, en face de certains philosophes intéressants, qui ont une certaine loyauté, Merleau-Ponty, lui, il n'y a plus la distinction âme et corps. Le premier Merleau-Ponty, pas le second, mais le premier, celui qui a écrit, puisque le livre posthume était au moment où Merleau-Ponty commençait à découvrir autre chose, l'être sauvage, donc l'âme sauvage. Et au fond, par l'être sauvage, il découvrait quelque chose de premier par rapport à la conscience humaine. Alors que quand il restait sur le problème de la conscience humaine, il ne voyait pas la possibilité de distinguer âme et corps. Je me souviens, là encore un petit détail personnel, c'était en Suisse, à Lausanne, où j'aimais beaucoup le professeur de philosophie de ce temps-là, qui avait été formé à Paris, et qui m'a dit un jour, dans la conversation comme ça, est-ce que vous acceptez encore la distinction de l'âme et du corps? Alors j'ai dit oui, ça me semble une distinction philosophique extrêmement importante. Il m'a dit tous mes élèves, tous mes étudiants et étudiantes, et spécialement les étudiantes, refusent complètement cette distinction parce qu'ils sont tous à l'école de Merleau-Ponty. Alors il m'a dit, ça m'intéresserait beaucoup si vous êtes d'accord qu'un jour, vous avez le temps, on consacrerait notre soirée, j'inviterai tous mes étudiants, j'inviterai, et puis on consacrerait toute cette soirée à voir si la distinction de l'âme et du corps est une distinction qu'il faut garder ou qu'il faut supprimer. Alors il m'a dit, est-ce que vous acceptez? Je dis, je ne demande pas mieux. Il m'a dit, je ne peux pas vous inviter à mon séminaire. Je ne peux pas vous inviter à l'université. C'était avant le concile. Hein. Parce que vous venez de Fribourg. Et Fribourg, c'est les papistes. Donc je ne peux pas vous inviter. Alors je dis, je comprends. J'aurais bien aimé, pourtant. Après le concile, j'ai pu faire des conférences. Ça a été le changement. Alors on a eu une réunion, c'était du reste beaucoup plus sympathique d'une certaine manière. C'était beaucoup plus péripatéticien. On était tous dans la même salle, dans le salon. Et je me trouvais devant une trentaine d'étudiants et étudiantes. Et ceux qui étaient là savaient très bien le sujet. On discuterait cette question, la distinction d'âme et du corps, est-ce que c'est encore philosophique? Ou est-ce que c'est passé, c'est mythique? Est-ce que le mythe revient? Ou est-ce que le logos demeure? Est-ce qu'on peut encore philosophiquement parler de l'âme? Ou est-ce que c'est fini? Alors c'était très intéressant. Parce qu'on avait une jeunesse très libre, complètement en dehors du point de vue chrétien, qui n'y croyait plus. J'avais juste en face de moi, j'y suis à vrai coup, une étudiante qui était la fille du pasteur. Elle était une des plus acharnées. Je reste à dire que la distinction de la vie et du corps, ça signifiait plus rien du tout. Puisque tout d'un coup, en parlant, je parlais de la vie et du corps, ça m'a échappé. C'est tellement comme naturel. Alors j'ai vu le petit sourire ironique, juste devant moi. Alors ça m'a arrêté bloc. J'ai dit, mademoiselle, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, et on parle philosophique. Donc, excusez-moi de traduire le sourire. C'est intéressant de partir du sourire. J'ai très bien compris, vous compreniez que j'étais complètement périmé. Que j'étais un vieil éléphant qui parlait encore du saison d'âme et du corps. C'est complètement passé. Depuis Merleau-Ponty, c'est passé. Alors j'ai dit, est-ce que pour vous ça signifie quelque chose ? Elle m'a dit non, rien du tout. Alors j'ai dit, partons de l'expérience. Faisons de la philosophie maintenant. Ce soir, j'espère que vous pourrez dormir. Est-ce que c'est la même